Voir clair le libère. Voir clair le libère. En fait, notre enfermement, toutes nos souffrances, tous nos problèmes, c'est un problème de visibilité. Observer, c'est objectiviser. Chaque fois, quelque chose que nous pouvons voir, nous sommes obligés de se séparer pour pouvoir observer. Si je veux observer la colère, j'ai besoin de me séparer de la colère pour l'observer. Là, je suis libre de la colère. Si je ne veux pas souffrir, j'ai besoin d'observer la souffrance. La souffrance est un objet d'observation et que nous ne sommes plus dans l'emprise de la souffrance. Va vers tes peurs. Peut-être que vous avez entendu cela en te voyant. La peur va s'habituer. Si vous voyez quelque chose comme troublant, n'importe quelle chose, comme la peur de la mort, par exemple, explorons-nous ce que c'est la mort. Approchez, regardez, de près, mais aussi intimement, quand on regarde là. La mort, nous sommes obligés de regarder la naissance pour comprendre la mort. Pour connaître ce que c'est le jour, on a besoin de connaître ce que c'est la nuit. La mort nous trouble, mais la naissance ne trouble pas. C'est étonnant. Je suis parti à la recherche de savoir ce que c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est qui meurt? Qu'est-ce que c'est qui ne meurt pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas? Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que ça existe? Indépendamment de la naissance. La naissance, c'est aussi la naissance de l'amour. Aussitôt né, la mort est confirmée. Quelquefois, on envoie des petites lettres d'invitation ou annoncer une petite Pierre ou Jacques ou Paul est né. Et en fait, cette petite annonce doit englober également, oui, il va traverser certaines durées de temps, qu'il va également disparaître. Mais nous ne sommes pas prêts à annoncer la naissance avec la mort. Pourtant, il est vrai. Quand j'accepte la vie, quand je décide de vivre, J'accepte aussi la disparition. En fait, l'invitation, c'est observer l'ensemble. Quand j'accepte la vie, j'accepte la mort. Donc, qu'est-ce que j'accepte? J'accepte le package. Et chaque jour, nous sommes dans ce dynamisme de vivre. Repousser la mort. Je mange, comme ça, je pousse la mort un peu plus loin. Je bois. Je peux encore pousser quelques jours. Mais quand je respire, je repousse, chaque souffle repousse la mort de quelques minutes. La vie, c'est sans cesse, c'est un effort contre la mort. C'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à intégrer les deux. Et quand on voit ça, il y a une transformation possible dans notre qualité d'existence. Avant, on agissait pour repousser la mort, exister, survivre. C'est pour ça qu'on fête chaque année notre anniversaire. On célèbre. Qu'est-ce qu'on a célébré chaque année? Ce qu'on célèbre chaque année pendant la fête de notre propre anniversaire, dire aux gens, j'ai réussi d'exister. En réalité, la mort, c'est notre partenaire de vie. Nous vivons grâce à la mort. Nous vivons grâce à la mort. Imagine si nous sommes éternels, immortels. Il n'y aura plus de vie. Il n'y aura plus de vie. On ne verra rien. Rien n'est possible de faire. La vie disparaîtra si nous sommes immortels. Les êtres, s'il atteint l'immortalité, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il vit? Il ne peut rien faire. Parce que la vie, c'est une lutte constante. En fait, le dynamisme de la vie, c'est la mort. Grâce à la mort, qu'on vit. Et donc, la mort, c'est la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Quelque chose qui nous fait peur devient quelque chose très intime. En fait, nous sommes tous des jumeaux. À ma naissance, j'ai eu mon frère, ma sœur, la mort. Regardez cela. Apprendre à voir et apprendre à intégrer notre disparition comme une apparition. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons cette histoire que Dieu a expiré. Pour pouvoir souffler, on a besoin d'expirer. Expirer, ça veut dire mourir. Pour que Adam inspire à la vie. Donc, l'expiration de Dieu, ça veut dire la mort de Dieu devient la naissance de Adam. l'outil a disparu. L'individu est apparu. Et puis dans la vie, on cherche Dieu. Vous voyez la contradiction? Il a rendu son souffle. Il nous a donné son souffle. En fait, il vit à travers nous. Le fragment, quand il a pris conscience en tant qu'entité, le tout est parti en arrière-plan, oublié. C'est-à-dire pour pouvoir affirmer, moi, je suis en tant qu'individu, fait son petit chemin, et nous avons fait un énorme sacrifice. On a quitté l'ensemble pour pouvoir favoriser l'apparition d'un ego. Moi, je suis quelqu'un. Tout personnage qui joue au théâtre est obligé d'oublier ce qu'il est vraiment pendant le spectacle. Pendant le spectacle, s'il rappelle, il va avoir des difficultés pour pleinement incarner le personnage. Et ce que je suis en train de vous dire, notre chemin spirituel, c'est de faire une sorte d'équilibre entre ces deux. Moitié-moitié, je dirais. Fixé. Je suis la moitié. Le reste de moi, c'est le tout. C'est-à-dire l'observation assez intimement de soi-même va nous amener à un équilibre entre la face cachée de soi-même et la face visible. Et là, l'individu est complet. Jusque-là, si on n'a pas ça, il manque quelque chose profondément. Il manque quelque chose que le masque a du mal à être lui-même parce que la moitié de lui n'est plus appréciée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois ici-bas et au-delà. Ajouter une dimension qui va nous compléter. C'est ça notre objectif. À travers des diverses manières d'observation. J'observe le monde autour de moi parce que je ne comprends pas. J'observe tout simplement. Je regarde. Je vois les formes, je vois des objets, je vois cet univers vaste, infini. Plus que j'explore le monde extérieur, sa grandeur, je me rends petit. Plus que j'élargis la vision, je me dis, je suis rien du tout. Je suis un fragment. Et si l'observation conduit progressivement vers soi, l'univers devient un simple rêve, que je suis le rêve. Vous voyez la différence de mouvement de l'attention quand spontanément nous avons cette facilité de regarder autour. Plus que j'explore le monde extérieur, je deviens insignifiant. Le monde fonctionne très bien sans moi. Le monde n'a pas besoin de moi. Tout fonctionne sans moi très bien. Et quand l'attention se dirige vers soi, pas à pas, d'abord, nous allons observer le corps, parce que c'est là qu'il y a la possibilité de douleur-plaisir. Par cette objectivisation, je ne sais pas si on peut dire comme ça, objectiviser notre propre corps. Je suis maintenant observateur de mon corps et donc je me sépare de moi. Obligé. J'observe tout mon corps, pas seulement les sensations sensorielles, j'observe même le cerveau. J'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. On va remarquer, et partout j'observe, c'est composé de multiples fragments. Mon corps, composé de sept dhatu, composant grosso modo dans la façon indienne d'observer le corps. Je mange, ce que je mange transforme, se rentre dans le resa. Resa, ça veut dire lymphe. Après, de lymphe, ça se transforme, ça devient le sang, et puis ça devient la chair, la graisse, les muscles, les moelles, les os, etc. Et fini par la dernière phase d'évolution de ma nourriture en tant que les tissus reproducteurs, où la vie veut se reproduire, pousser ailleurs. Ça vous continue. La vie vous continue dans un autre corps. Et puis, je vois qu'en fait, mon corps, c'est quelqu'un d'autre. Il fait sa vie. Le corps fait sa vie indépendamment de moi. Ça vient d'un autre corps. C'est comme des boutures, en fait. Donc on coupe un petit peu et on plante. Après, ça devient une autre plante. On peut couper un autre morceau et planter ailleurs. En fait, quand on regarde sur le plan physique, le corps continue, génération après génération, indépendamment de moi. Donc, on fait qu'imaginer que j'ai fait un enfant. Je fais ma vie. Mais en fait, c'est qu'une histoire qu'on raconte à soi-même et rien d'autre. La vie fait sa route. La vie sert de nous avec des petites récompenses. C'est-à-dire, aussitôt que je objectivise la continuité, le flot de la vie de génération après génération qui traverse à travers mon corps sur un autre forme de vie, un autre enfant, notre progéniture, cet enfant va devenir un autre adulte qui va continuer à se reproduire. En fait, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes qu'un observateur d'une rivière qu'on appelle la vie. Nous sommes sur le rivage, ça continue, ça traverse à travers nous. Que nous sommes libres de la vie et de la mort. Simple observation du corps. Je fais libérer qu'en fait je suis jamais né et donc je ne meurs jamais. Physiquement. Après, qui suis-je? Est-ce que j'étais présent dans le moment de fécondation? Comme j'observe, ma présence est ininterrompue. Ce n'est pas le moment de sortir du ventre de ma mère que je commence à exister. J'ai existé certainement juste avant. Dans ces cas, j'ai existé aussi le moment de fécondation. Est-ce que le moment de fécondation, d'un coup, il y a quelque chose qui est apparu, comme l'eau apparaît quand hydrogène et oxygène sont brûlés? Est-ce que c'est le moment où il y a eu une création ou bien j'ai existé même avant? Donc, nous avons besoin de pousser notre observation dans des autres sphères. Qui observe? Les yeux observent, mais qui observe les yeux? Les yeux sont que des capteurs de lumière. Donc, il y a encore une autre entité derrière les yeux qui voit les yeux. Donc, il y a un œil de l'œil. Mais qui c'est cet œil qui regarde? On peut dire une partie du cerveau qui est responsable pour la vision, mais cette partie est vue par quoi? Encore autre chose du cerveau? Une partie du cerveau observe une autre partie du cerveau? Si on pose cette question continuellement, même la partie du cerveau qui observe une autre partie du cerveau est observée par encore autre chose. Mais quelle autre chose? Aussitôt que j'observe le cerveau, je suis à l'extérieur du cerveau. Si on dit manas mental qui observe, les organes des sens qui observent manas intellect. Mais qui observe l'intellect? C'est l'ego. Qui observe l'ego? Parce que c'est observable. L'ego est observable. Si c'est observable, ça veut dire on peut se séparer de notre propre identité. Je m'observe, je suis en train de penser, je suis en train de prendre des décisions, je suis en train de vivre des divers événements, je suis triste, je suis heureux, etc. Donc, mes fluctuations intérieures, qui est représentée par l'ego, je suis bien, je ne suis pas bien, et je suis capable d'observer que je suis bien et je ne suis pas bien. Mais quelle est cette entité qui observe l'observateur? La recherche qui nous amène à la prise de conscience de cette simple capacité d'observation. Et cette capacité d'observation n'existe pas dans le même plan que mon corps, que mon esprit, mon ego. C'est-à-dire ce chemin d'observation qui nous amène à l'extérieur même de l'espace-temps. Nous arrivons hors de temps. Nous devenons extra-cosmiques. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nature de cet observateur de tout, dans le sens qu'on appelle Purusha? La conscience primordiale. C'est-à-dire, là, nous sommes libérés de tous les artifices, toutes les différentes couches, annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha, anandamaya kosha, tous ces cinq enveloppes, l'enveloppe physique, enveloppe pranique, enveloppe mentale, enveloppe de connaissances, intellectuelle, enveloppe émotionnelle. Et à la sortie de tout, qu'est-ce qu'on retrouve? Ma nature simple, pure, conscience. Ça, c'est la réalisation de soi. Par cette recherche progressive d'observation qui nous amène à la prise de conscience de nous-mêmes dans notre état pur. Qui suis-je? Je suis une possibilité. Un oui. Et ce oui que nous évoquons en chantant Om, c'est une permission, une possibilité. Je suis une possibilité. Une possibilité, c'est quoi? Une semence. L'observation d'un arbre, d'où vient un arbre, on va trouver une semence. Et d'où vient la semence? Semence, ça vient d'un arbre. C'est-à-dire la progression de notre connaissance de soi qui nous amène à un tel point que ça fait des mutures. Des mutures, c'est-à-dire quand on arrive à trouver l'observateur qui est libre de tout ce qui est observé, il peut aller où maintenant? La prise de conscience de soi va nous révéler quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire, si le monde que je perçois, avant que ça devienne perceptible, où ça existait? Ça existait à l'intérieur de celui qui regarde. Sinon, comment ça peut être vu? C'est-à-dire, la recherche d'observation qui nous amène à un point de libération, où je suis en dehors de cette existence, cet univers, je suis la conscience pure, et après, on va prendre conscience qu'en fait, je suis en train de regarder moi-même. Parce que je suis le monde. Parce que le monde existe à l'intérieur de moi. Et là, la personne qui a fait ce chemin va faire un retour au monde où son regard, c'est comme s'il regardait le miroir. C'est-à-dire exploration de ce monde dans sa totalité, l'observation de ce monde nous fait révéler que tout ce que nous voyons, c'est en fait nous-mêmes qu'on. Est-ce que ça règle quelque chose? L'univers, c'est moi. C'est-à-dire chaque personne que je vois, c'est moi-même. Chaque individu, c'est des faces cachées de moi-même. Dans ces cas, quel est leur rapport, quelle est la relation que je peux établir avec des individus que je rencontre? Quelle forme d'écoute, regard que nous pouvons porter à toutes les personnes qui nous entourent. C'est une réponse à une question. Est-ce que ce chemin spirituel, est-ce que ça nous coupe de la vie? est-ce que je vais devenir incapable de sentir les douleurs, les plaisirs de la vie? Oui. Beaucoup plus qu'avant. Avant, on voyait quelqu'un qui m'entourait. Maintenant, ce quelqu'un n'est plus quelqu'un, mais c'est une découverte même de moi-même dans une façon complètement mystérieuse, une partie de moi que je ne savais pas, je ne connaissais pas, qui se révèle à travers quelqu'un. Dans ces cas, comment on peut écouter quelqu'un qui est en train de parler de sa vie? Celui qui a fait ce chemin va écouter l'autre comme si c'était sa vie qui se déroulait à travers l'autre. L'autre vit pour nous. Ainsi, le sage qui a fait ce chemin, le yogi qui a fait ce chemin, il vit à travers tous les autres. Je suis en toi, tu es en moi. Sa capacité de s'ouvrir à l'autre n'est plus pareille. L'amour inconditionnel est possible pour une mère, même son enfant est terrible, la mère est capable d'aimer inconditionnellement, simplement parce qu'une mère est capable de regarder son enfant comme une extension d'elle-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas communiquer avec nos parents, parce que tout ce qu'on peut dire, ils vont entendre comme leurs propres paroles. Imagine dans ce sens, l'univers tout entier révèle notre nature. Autrement dit, le chemin spirituel qui va nous donner un autre point de vue extraordinaire pour pouvoir aimer l'univers tout entier inconditionnel. C'est-à-dire ce chemin que nous empruntons. Ce n'est pas isolement, ce n'est pas éloignement, c'est d'être dans le cœur de chacun qui nous entoure, pas seulement les êtres humains. Je suis le soleil, je suis les étoiles, je suis la terre, je suis les arbres, je suis l'humanité tout entière. Vous voyez, c'est ce chemin où ça nous amène. Ça nous amène à une forme de diffusion de cette concentration de moi-je qui se reste bloqué sur un corps avec un scénario. Là, on va rentrer dans un autre scénario cosmique. Là, le yoga prend tous ses sens, le fragment ressemble le tout. Le microcosme réalise, en fait, je suis le macrocosme. Il n'y a pas une autre récompense plus que cela. Dans ce chemin que nous prenons, c'est la réalisation de soi dans toutes ses dimensions. Je suis à la fois un petit individu de rien du tout qui vit quelques années, en même temps Je suis le tout. L'intégration est totale. C'est ça, yoga, union. Unification. Extérieur devient intérieur. Intérieur devient extérieur. Seul, mais avec tous les êtres. Ressentir, être habité par l'univers tout entier. C'est la récompense plus grandiose qu'on peut imaginer dans une quête spirituelle, de se sentir comme une mère de cet univers, de se sentir capable d'englober, embrasser le monde entier. Aujourd'hui, grâce à Amma, je suis que la mère de Mata Amartanandamayi est décédée aujourd'hui. Et cette nouvelle est arrivée. Merci, Amma. C'est-à-dire une personne qui est un enfant peut devenir même la mère de sa propre mère par un chemin spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est aboutissement de la vie. Pourquoi nous faisons des enfants? En espérant qu'ils vont faire ce que nous n'avons pas pu faire. C'est une simple délégation. Le moment où un individu accomplit ce but absolu, qui n'est pas une priorité matérielle, bien sûr. Mais si un individu décide de plonger en soi, le résultat, c'est de devenir capable de retrouver ces trésors qui étaient cachés au cours de milliers de générations. Tous nos ancêtres n'ont pas pu le faire, qui nous a transmis. En fait, le vrai fardeau d'héritage, c'est quoi? C'est l'accomplissement spirituel. Qu'est-ce que nous sommes portés? Donc, nous portons un fardeau. Nos parents qui nous ont donné, pas seulement, on imagine, c'est la peur, de la frustration, tout ce que leur rêve, tout ça. C'est... Mais en fait, au-delà de tout ça, la réponse que nous pouvons donner là, la récompense que nous pouvons donner à tous nos ancêtres, c'est se réaliser. Réaliser notre véritable grandeur. Et c'était ça qu'eux, ils ont souhaité. Pourtant, peut-être, ils n'ont pas pu l'accomplir. Et ça veut dire, véritable liberté se manifestera physiquement, corporellement, le moment de cette découverte, tous les ancêtres sortira de leur tombeau, qui est notre corps. En fait, notre souffrance, ce n'est pas la nôtre. Et répondre à toutes les frustrations de toutes les générations passées par une simple prise de conscience de notre propre être. En fait, ils vont tous voir nous quitter parce que nous avons accompli ce qu'ils n'ont pas pu le faire. C'est ça notre devoir vis-à-vis de nos ancêtres, vis-à-vis de la vie. La vie partout en souffrance parce que il n'y a pas cet amour. Amour est devenu une marchandise. Du commerce, je t'aime aux conditions que tu m'aimes. Donc ça, c'est contractuel. Ce n'est pas débordement. Le débordement est né par cette prise de conscience de notre véritable nature, qui est rien d'autre que je suis ce que je vois. Ça, c'est la victoire de l'ego, parce que l'ego qui réalise cela, l'ego comprend finalement, je ne suis pas dans une boîte. Que toutes les frontières disparaissent. L'unité apparaît. Il y a un poète hindou qui dit, ne dis pas je, mais si vous dites je, donnez le sens, l'univers. Utilisez le je que en tant qu'univers. Je suis le tout. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'observation qui nous conduit à l'éveil de notre nature véritable, qui nous permet d'avoir la possibilité d'embrasser le monde. Comme un mot. C'est un exemple. Je vous souhaite tous de devenir capables de sortir de petits intérêts personnels, petits scénarios personnels qui nous perturbent. Qui suis-je, où je vais, demain, comment ça va être. Là, la feuille a compris que je suis l'arbre. L'arbre a compris que je suis la forêt. La forêt qui a compris que je suis la terre. Que la terre comprend que je suis l'univers tout entier. Merci pour votre écoute, pour ce chemin qu'on peut faire sur un petit tapis de yoga. Je vous invite à chanter le grand oui, cette ouverture. Inspirez profondément. Merci et bonne nuit, à demain matin. Merci à vous tous.